Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes en l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1er, versets 11 à 13, sur le polycopier qui contient les chapitres 1 à 5 de Saint Jean. Nous en sommes à la page 10, au milieu de la page. Donc nous avons vu, je vous répète les trois versets que nous sommes en train de commenter, parce que je n'ai pas terminé ce commentaire. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Je vous rappelle qu'on dit cette première partie de l'Évangile selon Saint Jean à la fin de chaque messe. Le dernier évangile de la messe traditionnelle. Et nous avons là un verset dont j'ai déjà parlé, qui est certainement un des plus importants de Saint Évangile. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Il faut mettre ce verset en parallèle avec un autre verset qu'on trouve dans l'histoire de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui explique qu'il n'y avait pas de place pour la Sainte Famille dans l'hôtellerie. Notre Seigneur Jésus-Christ vient donc chez ses propres créatures, et ses propres créatures ne le reçoivent pas. Il refuse la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là nié par tous ceux qui refusent de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme leur Créateur et comme leur Rédempteur. Donc voyons un petit peu ce que disent les pères. Nous en sommes deux paragraphes avant la fin de la page 10. De même que notre verbe ou notre parole devient en quelque sorte la voix du corps en s'unissant à elle pour se manifester au sens des hommes, ainsi le verbe de Dieu s'est fait chair en s'unissant à elle pour se manifester aussi aux hommes. Notre parole devient voix, mais elle n'est pas changée en voix. Ainsi, le Verbe de Dieu s'est fait chair, mais loin de nous la pensée qu'il a été changé en chair. Il s'est uni à la chair, il ne s'est pas transformé en chair. Il s'est fait chair comme notre parole se fait voix. Donc ici, les pères parlent évidemment du mystère de l'incarnation. Donc il ne faut pas imaginer que le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est entièrement transformé en chair humaine en perdant sa nature divine. C'est là le mystère, justement. C'est que le mystère dit bien que dans la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait une double nature. Il est resté parfaitement Dieu. Il est Dieu et il sera Dieu jusqu'à la fin des temps, pour toujours, puisqu'il est éternel. Mais en même temps, tout en étant Dieu, il est devenu chair humaine. Donc il est à la fois homme et Dieu. Dieu pour nous sauver, homme pour nous mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc il faut vraiment s'accrocher à ce dogme, certainement la base de toute la foi catholique, l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité, c'est en fait un seul et même mystère. L'incarnation est faite pour la rédemption et l'incarnation n'aurait pas pu se faire sans l'existence de la Sainte Trinité, les trois personnes consubstantielles. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je passe. Donc il ne faut pas encore non plus imaginer une espèce de mélange dans la personne divine entre la divinité et l'humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme. Il est totalement Dieu, totalement homme, mais sans qu'il y ait mélange de ces deux natures. Chaque nature reste individuelle. C'est évident qu'il y a là un mystère qui nous dépasse complètement. Le mystère de l'incarnation, certainement un des plus grands mystères de la foi catholique, avec le mystère de la Sainte Trinité. Le Verbe s'est fait homme en s'unissant une chair animée d'une âme raisonnable, par une union ineffable et incompréhensible qui ne fait en lui qu'une seule personne. Une seule personne qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu, comme cette personne est parfaitement humaine, elle a donc l'intégralité de la nature humaine. L'homme étant composé d'un corps et d'une âme, il y a donc dans cette personne de notre Seigneur Jésus-Christ une corporalité totale, c'est-à-dire un corps animé d'une âme. Donc il y a le corps, l'âme, évidemment. Avec le corps et l'âme, il y a aussi la divinité. Donc avec le corps et l'âme, il y a aussi le sang, bien sûr. Et en même temps, la divinité qui est séparée du corps et de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, les deux natures sont séparées, mais unies dans la même personne. Bon, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est encore une fois le plus grand des mystères de la foi catholique, quelque chose qui est bien compliqué, bien difficile à accepter, on doit y croire tout simplement, c'est là où intervient la foi, on fait croire les choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher la divinité, on ne peut pas toucher l'incarnation, on ne peut pas toucher la rédemption. Les apôtres au moins, ils voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et pouvaient voir certains signes de sa divinité, comme par exemple lorsqu'ils l'ont vu se transfigurer au Tabor. Mais pour nous, c'est plus compliqué parce que nous ne voyons ni l'humanité, ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque le prêtre fait descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel avec les paroles de la transsubstantiation, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il élève l'hostie consacrée, il élève le calice qui contient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne voit rien, on ne voit qu'un calice, apparemment ce qui apparaît être comme du sang, comme du vin, quelque chose qui est une simple hostie. Il faut faire un acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Il faut tout simplement répéter cette belle, belle prière que l'on trouve chez les enfants de Fatima, que l'ange a appris aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Il est très bon d'utiliser cette belle prière. À chaque action de grâce après la communion, elle doit être jointe à l'autre prière apprise par les enfants de Fatima en 1916, donc avant la grande apparition de la Sainte Vierge en 1917. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son très saint cœur et ceux du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et répétez aussi ce que disaient les trois enfants au Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs, en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie, que je vous offre ce petit sacrifice. Donc chaque fois qu'on veut réparer les injures, et Dieu sait aujourd'hui si elles sont là, parce que la prière elle parle d'une chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, quand la prière dit que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans tous les tabernacles du monde, hélas, il est présent que dans quelques tabernacles, aujourd'hui de moins en moins, malheureusement, il y a très peu de tabernacles dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ est là, présent dans tous les tabernacles du monde, dit la prière. Et évidemment, aujourd'hui, il y a combien de tabernacles dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ est là? Vous avez dans toutes les églises modernes, il y a un tabernacle parfois qui est sur le côté en général, mais il est vide. Hein, il y a un bout de pain. Par contre, dans les tabernacles des prêtres qui sont vraiment prêtres et qui disent, célèbrent la messe traditionnelle, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment là avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc il faut vraiment faire des actes d'adoration et des réparations pour tous les blasphèmes qui sont constamment prononcés par les hommes. Une autre prière que vous pouvez aussi utiliser en réparation de tout le blasphème d'aujourd'hui, tous les blasphèmes prononcés par Bergoglio et sa clique, sont les louanges divines qu'on dit à la fin du salut. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son très précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint Consolateur, béni soit l'Auguste Mère de Dieu, très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse assomption, béni soit le nom de Marie Vierge Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Puis on peut rajouter ces trois prières traditionnelles. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Il importe aujourd'hui que les catholiques qui ont la foi, il n'y en a plus beaucoup, fassent réparation pour tous ces innombrables, ces millions de blasphèmes, de sacrilèges qui sont prononcés partout dans le monde entier. Et remerciez le bon Dieu si vous avez près de chez vous, pas trop loin de chez vous, un prêtre traditionnel dans la Koum qui a compris avec la grâce du bon Dieu toutes ces choses-là et qui vous apporte le saint sacrifice de la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Quelle grâce, un signe. N'oubliez pas aussi que plus vous avez reçu, plus il faut donner, hein. Attention. Donc, nous en sommes au dernier paragraphe de la page 10. Le Verbe s'est fait homme en s'unissant une chair animée d'une âme raisonnable. Bon, c'est-à-dire qu'il est vraiment homme, donc avec un corps, une âme et le sang. Par une union ineffable et incompréhensible qui ne fait en lui qu'une seule personne. Il a été appelé fils de l'homme, non par suite d'une simple union de volonté et de bon vouloir, ni parce qu'il avait pris la simple personnalité de l'homme, mais par suite de l'union véritable de deux natures différentes qui n'ont formé qu'un seul Christ et qu'un seul Fils, sans que cette union ait détruit la différence des deux natures. Encore une fois, les deux natures sont unies dans la même personne, ce qu'on appelle l'union hypostatique. Hypostatique parce que hypostase, ça veut dire la personne. Donc union hypostatique, union de la nature divine et de la nature humaine dans la même personne, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc la Sainte Vierge Marie est mère d'un enfant qui est vraiment Dieu et homme, donc elle a le droit au titre de mère de Dieu. Alors passons au verset suivant, donc nous en sommes au verset 14, en bas de la page 10. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, nous avons vu sa gloire, gloire comme Dieu Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Donc passons à la page 11 pour expliquer c'est ce verset 14. Donc, pas terminé, donc la partie très difficile de Saint Jean, la première partie, les premiers versets sont vraiment certainement les versets les plus théologiques qui soient, donc les versets difficiles à expliquer. Donc là, les choses se simplifient maintenant. Donc, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, on fait la génuflexion en même temps, justement, par respect, par vénération, par adoration pour le Verbe qui s'est fait chair. Je vous rappelle que d'après certains docteurs, l'apparition privée, bon, on a toujours le droit d'utiliser l'apparition privée pour la piété personnelle, ça peut vous aider. Lorsque notre Sainte Vierge Marie a donné son fiat, le Verbe s'est fait chair et habitait parmi nous, c'est le rappel du mystère de l'incarnation, c'est la phrase qu'on va retrouver dans l'Angélus. Eh bien, à un moment précis, notre Sainte Vierge Marie a donné son fiat, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. D'après certaines révélations privées, l'ange Gabriel et notre Sainte Vierge Marie, tous les deux sont tombés à genoux en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est venu de s'incarner dans le Saint Très Pur, notre Sainte Vierge Marie, sont restés tous les deux, la Sainte Vierge et l'ange Gabriel, en adoration complètement silencieuse pendant, je crois, à peu près 7 heures. Bon, ça c'est pas deux fois, il n'y a pas deux fois que notre Sainte Vierge Marie reste en adoration 7 heures après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous pouvez l'utiliser pour votre gouverne personnel. C'est une belle histoire que je dis souvent quand j'explique la première communion aux enfants. C'est dans une petite Irlandaise du début du XXe siècle, si mes souvenirs sont exacts, qui s'appelait Nelly de Dieu Saint, qui a fait sa première communion à 3 ou 4 ans. Elle était orpheline dans un orphelinat tenu par les sœurs. Et à la fin de son, à la fin de son, de son, au bout de 3 ans, justement, mon grand est mort très jeune. Elle est morte à 3 ou 4 ans. Je crois de tuberculose, si mes souvenirs sont exacts. Donc, elle a reçu la Sainte Communion. Elle est tombée sur un prêtre qui a eu le bon sens de lui donner la communion parce qu'il avait compris qu'elle mourrait très vite et qu'elle était parfaitement, suffisamment mûre pour communier puisqu'elle avait l'âge de raison. Le prêtre lui a donné la Sainte Communion pour la première fois, pour sa première communion. Et à la suite de ça, elle est devenue toute rose et elle est restée en adoration silencieuse pendant toute la journée. Toute la journée. Les sœurs n'ont pas osé la distraire. Lui rappeler les nécessités de la vie. Elle a eu pas de petit déjeuner, pas de repas de midi, pas de repas du soir. Elle est restée en adoration, unie à son Dieu pendant tout ce temps-là. Elle nous aider à faire de bonnes actions de grâce. Je souffre un petit peu de voir souvent nos fidèles qui, pas tous heureusement, mais qui pensent pas à faire une action de grâce. Ils communient, la messe est à peine terminée, déjà quelques secondes plus tard, ils se lèvent pour aller faire d'autres choses, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est en eux. Rappelez-vous cette belle exemple qu'avait donné Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, je crois que c'était lui, avait remarqué une personne qui communiait dans sa chapelle, dans son oratoire, et qui partait immédiatement après sans, pour prendre le temps de faire son action de grâce, et pour lui donner une leçon, hein, l'aider à comprendre la gravité de ce qu'elle faisait, de ne pas faire l'action de grâce du tout. Eh bien, il avait demandé, après la communion, alors qu'elle quittait tout de suite l'église, aux deux enfants de cœur de la suivre dans la rue, en l'accompagnant à droite et à gauche avec un cierge allumé. Donc ils sont partis tous les deux avec le cierge d'hôtel pour accompagner cette femme qui n'était pas violente. C'était surprise, qui s'est retournée, elle s'est dit, qu'est-ce que vous faites là, les enfants de cœur, pourquoi est-ce que vous me suivez? Et ils avaient reçu la consigne de dire, eh ben, nous vous suivons parce que vous ne voulez pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous marquons cette adoration par la présence de deux cierges à vos côtés. Elle a compris. Donc, page 11. Les paroles de Saint Augustin. Ces paroles, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, nous apprennent que le Verbe a fait du mystère de sa naissance comme un collier pour éclaircir les yeux de notre cœur et nous permet de voir sa majesté à travers son humanité. Nous avons vu sa gloire. Gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Oui. Donc, nous passons par l'humanité en sachant que la divinité est cachée derrière l'humanité. Donc, si vous voulez, nous, il faut, c'est même plus compliqué pour nous, encore une fois, parce que nous, on voit l'hostie, on sait que cette hostie est consacrée. Donc, de l'hostie, on passe à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est véritablement, substantiellement contenu dans l'hostie. L'hostie n'est plus du pain, mais c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est une humanité jointe. Donc le corps joint à l'âme et au sang, mais derrière cette humanité, il y a encore quelque chose d'autre qui est caché, à savoir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a l'hostie, l'humanité, la divinité, et donc quand nous communions, nous recevons véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le même Dieu qui s'est incarné, le même Jésus-Christ qui s'est incarné dans le Saint-Tracule de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, il y a 2000 ans, et qui est mort sur la croix le Vendredi Saint. Donc il faut vraiment augmenter la foi pour voir la majesté divine à travers son humanité, et voir la divinité qui est jointe à cette humanité, même si on peut voir ici-bas pour nous, en tout cas, ni l'humanité, ni la divinité. Donc, personne ne pourrait voir sa gloire s'il n'était guéri par l'humilité de son incarnation. Donc, le Père insiste justement sur cette nécessité de l'humilité. J'ai déjà cité cette belle parole d'un des Pères d'Église, je ne sais plus lequel, qui disait que pour rentrer dans la grotte, il fallait se baisser, parce que le seuil de la grotte, la porte qui permettait de rentrer dans la grotte de Bethléem était bas. Et donc il fallait se baisser, et quelqu'un qui ne voulait pas se baisser ne pouvait pas rentrer dans la grotte, et donc ne pouvait pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'incarnation, pour pouvoir comprendre le mystère de l'incarnation, ben on est obligé de pratiquer cette vertu d'humilité. Sans la vertu d'humilité, le mystère de l'incarnation ne peut pas être, bien sûr, pas compris, mais pas même être médité. Il faut l'humilité pour pouvoir essayer de pénétrer dans ce mystère de l'incarnation. Personne ne pourrait voir sa gloire s'il n'était guéri par l'humilité de son incarnation. Incarnation, c'est bien ce que ça veut dire, c'est prendre chair humaine, dire Dieu qui est l'être infini par définition, l'ipsum et ses subsistances, l'être qui existe par lui-même, qui subsiste par lui-même, il est celui qui est, il est, alors que nous sommes celui qui n'est pas, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, se manifeste aux yeux humains, à condition qu'on ait cette vertu d'humilité. Hein? Rappelez-vous le publicain de l'évangile qui est pardonné après venu adorer au temple parce qu'il avait l'humilité, alors que le pharisien qui était plein de lui-même et qui se vantait tout ce qu'il avait fait, eh bien, sorti du temple, non justifié. Donc il faut demander avec cette humilité pour chacun d'entre nous, moi le premier, on a besoin de cette humilité pour arriver à comprendre, à accepter la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à croire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Sans humilité, on tombe dans l'orgueil. Et si on tombe dans l'orgueil, bien évidemment, l'homme orgueilleux refuse de voir notre Seigneur Jésus-Christ. L'œil de l'homme est encore obscurci par la poussière soulevée de la terre, il avait les yeux malades, et Dieu lui met comme de la terre sous les yeux pour les guérir. Donc Dieu guérit l'homme à condition que l'homme reconnaisse qu'il ne peut rien faire sans cette vertu d'humilité. Donc, si au contraire je suis plein de ma propre gloire, comment voulez-vous que je puisse voir la gloire de Dieu? Si ma propre gloire m'empêche d'ouvrir la porte pour que Dieu puisse rentrer dans mon âme. La chair nous avait aveuglés, c'est la chair qui nous guérit. L'âme était devenue charnelle en donnant son consentement aux affections de la chair, et c'est ainsi que l'œil du cœur avait été aveuglé. Donc cette chair représente l'orgueil de l'homme. Et donc Dieu nous met de la terre sur les yeux pour les guérir. C'est-à-dire si on accepte de reconnaître qu'on n'est rien sans notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va nous ouvrir les yeux de notre âme, on va pouvoir passer de la terre au ciel. L'âme, était devenue charnelle en donnant son consentement aux affections de la chair. C'est ainsi que l'œil du cœur avait été aveuglé. Le médecin vous a fait un collier en venant revêtu d'une chair mortelle pour réprimer les vices de la chair, car le Verbe s'est fait chair, afin que vous puissiez dire, nous avons vu sa gloire. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, je vous ai souvent cité, Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Dieu se fait homme pour que l'homme puisse remonter vers Dieu et retrouver sa place au ciel qu'il avait perdu par le péché d'Adam et Ève. Donc on a les yeux malades, les yeux de notre foi sont malades, c'est pour ça qu'on a tellement de mal à croire à toutes ces choses-là. Le monde moderne étant un monde d'abord centré sur l'orgueil, logiquement parlant, le monde moderne ne peut pas comprendre le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, le mystère de la Sainte Trinité, ne peut pas même accepter le principe que Dieu puisse être présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans une hostie consacrée. Ça révolte l'homme moderne qui est devenu, qui va suivre Satan, Lucifer, qui a bien dit avant l'homme moderne, je ne servirai pas. Malheureusement, c'est ce que nous répétons. À chaque fois, nous n'acceptons pas de nous humilier devant Dieu. Donc, notre Seigneur est revêtu d'une chair mortelle pour réprimer les vices de la chair. Donc, certainement, on peut dire que la meilleure façon de lutter contre les tentations d'impureté, tentations de luxure, eh bien, c'est justement d'utiliser la Sainte Communion. Pourquoi ? Parce que la chair parfaitement pure de notre Seigneur Jésus-Christ va guérir les vices de notre chair d'ici-bas. Mais attention, il ne faut pas oublier que la Sainte Eucharistie, c'est un sacrement des vivants. Donc je ne peux pas communier si je suis un tas de péchés mortels. Il faut donc absolument me confesser avant de communier pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse effectuer son travail de purification dans nos âmes. Si j'ai le malheur de commettre un tas de péchés mortels, je bois, dit c'est Saint Paul qui parle, je bois et je mange ma propre condamnation. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Alors, ici, les pères font une remarque très, très belle. Ils remarquent que les créatures reconnaissent tous leur maître, l'étoile, même les créatures non raisonnables comme une étoile. L'étoile, en appelant les mages à son berceau, berceau de notre Seigneur. Les anges, en annonçant la naissance de notre Seigneur au berger, l'enfant. Saint Jean-Baptiste, donc, qui tressaille dans le sein de sa mère. Donc, on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ fait participer, si vous voulez, à sa gloire, toutes les personnes qui sont autour de lui, qui utilisent leur âme pour monter vers le bon Dieu. Donc, même les créatures non raisonnables, comme l'étoile, obéit à la loi divine. Les tremblements de terre, par exemple, du Vendredi Saint, les tombeaux qui s'ouvrent au Vendredi Saint, sont encore un autre exemple de cette participation des créatures même non raisonnables à la grandeur divine. Notre Seigneur Jésus-Christ est maître de toutes ces créatures, y compris de ces créatures immatérielles. Il est maître, bien sûr, également, et à plus forte raison, de ces créatures qui ont une âme raisonnable comme les hommes, comme les anges. Mais Dieu est aussi maître des créatures qui n'ont pas d'âme raisonnable, mais qui ont une âme végétative, une âme sensitive, par exemple un chat ou un arbre, ce sont des êtres vivants qui sont en obéissance totale à la loi divine. Ils suivent par instinct pour les animaux et par obligation, les règles que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a données à toutes ces créatures, même les créatures les plus ténues, les plus imparfaites. Un arbre, par exemple, qu'est-ce que l'âme végétative d'un arbre par rapport à l'âme spirituelle d'un enfant de Dieu? Évidemment, deux choses complètement différentes. Et donc, on voit cette humiliation par lesquels passent les saints quand ils se retrouvent en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, commencé par Saint Jean-Baptiste qui tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère et qui a été purifié du péché originel à cause de cela. Donc le Père lui-même a rendu ce témoignage du haut des cieux, le paraclet en descendant sur lui lors de son baptême. Encore une fois, des manifestations, la Sainte Trinité qui se manifeste par exemple très nettement au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. On entend cette voix du ciel qui représente le Père, donc qui dit « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Mais on entend aussi on voit le Saint-Esprit qui se manifeste par l'arrivée d'une colombe qui vient voltiger au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Verbe vient d'être baptisé dans son humanité par Saint Jean-Baptiste. Donc, nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Ces paroles qui suivent donc plein de grâce et de vérité peuvent s'entendre de deux manières différentes, disent les Pères, c'est-à-dire de l'humanité, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ incarné. Donc il y a la grâce et la vérité dans l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la grâce et la vérité dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors d'après certains Pères, la plénitude de la grâce, plein de grâce et de vérité, donc plénitude de grâce, plénitude de vérité, la plénitude de grâce se rapporterait à l'humanité de notre Seigneur, par laquelle le Christ est le chef de l'Église et le premier-né de toute créature. En effet, c'est en lui que s'est manifesté le plus grand et le plus merveilleux effet de la grâce, en vertu de laquelle l'homme est devenu Dieu sans aucun mérite de sa part. Donc il faut ouvrir les yeux de la foi pour voir cacher en quelque sorte derrière l'humanité apparente de notre Seigneur Jésus-Christ sa divinité. la plénitude de la grâce en Jésus-Christ peut encore s'entendre de l'Esprit Saint, dont les sept dons remplir l'humanité du Sauveur. La plénitude de la vérité se rapporte, elle, à la divinité. Donc, plénitude de grâce se rapporte à l'humanité, plénitude de vérité qui se rapporte à la divinité. Mais dans les deux cas, cette plénitude, soit de grâce et de vérité, se retrouve en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a à la fois homme, plénitude de grâce, et Dieu, plénitude de vérité. Donc, de l'unité des personnes divines, donc, suit donc une participation des attributs des deux natures, ce qu'on appelle la communication des idiomes. Ainsi, ce qui est dans Christ un attribut humain peut être également attribué à sa divinité et inversement. C'est une suite logique de l'union hypostatique. Donc, on a peut attribuer à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ les attributs divins parce qu'il y a une union étroite entre cette humanité et cette divinité. C'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. Donc, on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas besoin de préciser, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu dans sa divinité seulement. Pourquoi ? Parce que quand on dit notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, on parle de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne qui est née de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars. Or, cette personne est Dieu. Et donc, on n'est pas, quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de Dieu fait homme. Donc, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Il n'y a pas besoin de dire que il faut rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ naît, est Dieu et homme. Et que donc, quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de son humanité qui est visible. Mais derrière l'humanité, il y a la divinité. Donc, les deux choses sont inséparables tout en étant distinctes. C'est là où est le grand mystère. Par exemple, on peut dire que cet homme, Jésus, est Dieu, tout-puissant, créateur, qui est de toute éternité. Inversement, on peut aussi dire que ce Dieu ou le Fils de Dieu a vraiment souffert, fut crucifié et mort. Bon, j'avoue que quand je prêche pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, je parle des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, j'explique toujours que notre Seigneur Jésus-Christ souffre en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, il peut pas souffrir. Et c'est là tout le mystère. Comment est-il possible que même dans les affres de la passion, sur la croix qui était crucifiée, comment notre Seigneur Jésus-Christ peut-il souffrir tout en étant Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ souffre sur la croix, sous les yeux de Sainte Marie Madeleine, Sainte Marie Cléophas, Marie Salomé, notre Sainte Vierge Marie, tous les habitants de Jérusalem sont là. Il souffre, mais tout en gardant l'union hypostatique. Il souffre, mais il est en même temps Dieu. Donc, étant homme, il souffre, étant Dieu, il nous rachète en même temps. Donc, comment les deux choses peuvent-ils être possibles? Comment est-il possible pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse souffrir alors qu'il est Dieu, qu'un Dieu ne peut pas souffrir? C'est là un grand, grand mystère. La communication des deux hommes, c'est un grand, grand mystère. Car en vérité, il n'y a qu'une seule et même personne dans le Christ, Dieu et homme, qui est passé par tous ces états selon ces deux différentes natures. Donc ceci, cette remarque des pères, qu'il n'y a qu'une seule et même personne dans le Christ, Dieu et homme, qui est passé, Q majuscule là, qui est passé par tous ces états en deux différentes natures, ceci va évidemment contre le nestorianisme, une hérésie du 5e siècle, qui a été matraqué littéralement par le concile d'Éphèse en 431. Nestorius était un moine qui prétendait qu'il y avait deux personnes dans le Christ, une personne humaine, une personne divine, et que donc la Sainte Vierge Marie ne pouvait pas être dite mère de Dieu parce que la Sainte Vierge Marie était mère que de la personne humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc attention, il y a une personne dans le Christ, pas deux, mais deux natures unies dans la même personne. J'ai déjà expliqué. Texte de Saint Athanase maintenant. En bas de la page 11, il est un, non par mélange des deux natures, mais par l'unité de personne. Donc, unité de personne, pluralité de nature. De même qu'une âme raisonnable, unie à un corps, veut former un seul homme, ainsi Dieu et l'homme forment un seul Christ. Donc, notre Sainte Vierge Marie étant mère du Christ, qui est Dieu, notre Sainte Vierge Marie est réellement mère de Dieu. l'homme est un essentiellement. Le Christ est un personnellement. C'est un peu comme un homme qui met sur lui un vêtement. Une nouvelle substance fait ajouter au verbe, comme s'il était un vêtement, mais substantiellement et non pas accidentellement. C'est pas quelque chose qui se surajoute, quelque chose d'artificiel qui se surajoute à la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, mais en même temps vraiment homme. Donc avec toutes les conséquences de son humanité, donc l'existence d'un corps, d'une âme et du sang entre Seigneur Jésus-Christ. L'union hypostatique est vraiment à la base de toute la foi catholique. C'est pour cela que cette union hypostatique est tellement attaquée aujourd'hui. Et dans la pratique, les prêtres modernes ne croient plus en l'union hypostatique, donc ne croient plus au mystère de l'incarnation. S'ils ne croient plus au mystère de l'incarnation, évidemment, ils ne croient plus au mystère de la rédemption. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient plus au péché originel, tout simplement. Ne croyant plus au péché originel, ils ne croient plus à l'existence du péché. Pour eux, le péché n'existe pas. Et puisque le péché n'existe pas, il n'y a plus besoin d'incarnation, plus besoin de rédemption, plus besoin que notre Seigneur Jésus-Christ vienne sur l'autel, puisqu'il n'y a plus de péché. Or, la messe est offerte d'abord en propitiation, en réparation de ses péchés. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de messe. Donc tout s'écroule. On voit très bien chez les prêtres modernes, on voit très bien, c'est clair et net chez Bergoglio à Rome, on sent très bien tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, qu'il considère que la messe n'a plus aucun intérêt, le baptême n'a plus aucun intérêt, la Sainte Eucharistie n'a plus aucun intérêt, la messe n'est pas importante parce que justement, pour lui, c'est clair et net, l'homme est bon et va au ciel par sa propre nature, parce que la grâce sanctifiante pour Bergoglio est partie intégrante de notre nature humaine, est unie à la nature humaine et donc ne peut pas être perdue. Parce que la grâce est naturelle à l'homme, selon lui. Alors que la grâce est surnaturelle à l'homme, et quelque chose qui se rajoute à l'homme, c'est un don gratuit que Dieu n'est pas obligé de faire à tous les hommes. Mais selon Bergoglio, c'est clair et net, la grâce est intrinsèquement unie à l'homme, telle façon qu'il ne peut plus y avoir de séparation entre la grâce sanctifiante et l'humanité pour chacun d'entre nous. Donc la grâce sanctifiante est toujours en nous, comme la grâce est nécessaire au salut. Conséquence, évidemment, tout le monde va au ciel. Donc attention, c'est Nestorianisme qui a fait énormément de dégâts au début de l'histoire de l'Église. Il a été très combattu, surtout par Saint Cyril d'Alexandrie, le grand évêque du Concile d'Éphèse. Malheureusement, le Concile d'Éphèse n'a pas pu empêcher le nestorianisme de continuer de se répandre, même à moindre vitesse, surtout en Asie mineure. Et on retrouve encore aujourd'hui les nestoriens en Arménie, et même en Égypte, au Liban, en Syrie, dans tous ces pays-là, on retrouve beaucoup d'influences nestoriennes. Donc le Fils de Dieu, c'est la conclusion des Pères, s'est revêtu lui-même la substance de la chair et de notre nature humaine, deux natures étroitement unies en lui, substantiellement dans la même hypostase, c'est-à-dire dans la même personne du Verbe. Car le Christ a assumé la véritable nature humaine, mais non la personne d'un homme. Donc il n'y a pas, encore une fois, une personnalité humaine de notre Seigneur Jésus-Christ séparée de la divinité. On voit très bien, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait... Notre Seigneur Jésus-Christ étant vraiment mort sur la croix, il y avait donc séparation obligatoirement entre son corps et son âme. Son corps était dans le tombeau, uni à la divinité, son âme était séparée du corps, unie également à la divinité, et descendue aux enfers. Et ce qui a pu transformer déjà les enfers, attention, c'est les enfers au pluriel, donc les limbes des patriarches, tous les patriarches de l'Ancien Testament, tous les justes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas monter au ciel parce que la porte du ciel était fermée, et donc ils ont dû attendre, et par la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque son corps est resté au tombeau à Jérusalem, c'est son âme seule qui est descendue dans les enfers pour transformer par cette divinité unie à son âme, transformer ce lieu en paradis, même si strictement parlant, le paradis ne sera ouvert officiellement que au moment où on a monté notre Seigneur Jésus-Christ au ciel avec son corps et son âme et son sang et sa divinité, le jour de l'ascension, donc 40 jours après Pâques. Le Verbe a donc assumé l'essence et la substance de l'homme, mais non sa personnalité humaine. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une double personnalité entre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Verbe s'est uni dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ en tant que personne est vrai Dieu et vrai homme. La nature humaine fut assumée par le Christ au moment même où il fut formé par le Saint-Esprit, qui est venu en premier, car l'humanité de Christ ne pouvait subsister comme personne. Donc, c'est la divinité qui a assumé l'humanité, et pas l'inverse. On ne pourrait pas dire que l'humanité a assumé la divinité. C'est pas l'humanité qui a attiré en quelque sorte à elle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la divinité qui attire en elle l'humanité dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie. Donc, le Saint-Esprit est venu en premier car l'humanité du Christ ne pourrait subsister comme personne. Il a joint la même nature humaine en lui-même dans l'unité de sa personne divine. Il y a fait subsister. Ainsi, l'humanité de Christ ne subsiste pas en elle-même mais dans la personne du Verbe. Donc c'est la personne du Verbe qui s'unit, qui unit en elle-même cette double nature, nature divine, nature humaine. Encore une fois, ce sont des passages un petit peu... Bon, c'est plus facile que tout à fait au début de l'évangile de Saint Jean. Mais ça reste un peu élevé, donc rassurez-vous, ça n'a pas duré. C'est bien pour ça que Saint Jean est comparé à l'aigle, parce que l'aigle vole beaucoup plus haut que les autres oiseaux. Il vole sommet du ciel, littéralement, pour bien monter. C'est pour ça que Saint Jean est représenté par l'aigle, à cause de l'élévation théologique de son évangile. Pour cela que les modernistes prétendent que l'évangile de Saint Jean est arrivé beaucoup plus tard, n'a pas été écrit par Saint Jean, parce que la théologie est beaucoup trop élevée, Saint Jean, étant un simple pêcheur de Galilée, ne pouvait pas avoir une théologie aussi élevée, c'est pas possible d'après les modernistes. Or, ces modernistes oublient complètement une chose, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ inspirait Saint Jean. L'inhérence des Écritures vient du fait que notre Seigneur Jésus-Christ est derrière, Dieu est derrière la plume de Saint Jean. Donc Saint Jean écrit son évangile avec l'image, si vous voulez, avec l'aide du Saint-Esprit qui lui dit les paroles qu'il faut écrire sur le papier. Et en même temps, Saint Jean écrit son évangile avec son style propre. Le style de Saint Jean n'est pas le même que le style de Saint Marc, de Saint Jean, de Saint Luc, pardon, ou de Saint Matthieu. Passons au verset 15 du chapitre 1er de Saint Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste, rend témoignage de lui et crie en disant: c'est celui dont j'ai dit, celui qui doit venir après moi était placé au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. C'est pour ça que notre Seigneur, Saint Jean, va dire: je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Donc Saint Jean-Baptiste, on est à page 12, agit de la sorte pour préparer les esprits à recevoir plus facilement Jésus-Christ sans être arrêté par ses humiliations volontaires et l'extrême simplicité de son extérieur. Évidemment, quand on voit la souffrance intolérable de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on peut se poser la question: mais comment est-il possible qu'il soit en même temps Dieu? Quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ à la crèche de Bethléem qui ne peut pas subsister sans le lait de sa mère, on pourrait se dire: mais comment se fait-il, puisqu'il est Dieu créateur du ciel et de la terre, donc il n'a pas besoin de sa Sainte Vierge Marie pour se nourrir en tant qu'homme? Eh bien oui, il a voulu passer par être Sainte Vierge Marie, de même que le prêtre, que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu passer par le prêtre pour pardonner les péchés, pour faire descendre son humanité jointe à sa divinité sur l'autel par le sacrifice de la messe. Pour cela qu'il y a tellement de gens au cours de l'histoire de l'Église qui ont dit c'est pas possible, donc qui ont nié l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, ou d'autres qui au contraire ont nié la divinité, j'ai déjà expliqué. En effet, le Sauveur avait un extérieur si simple et si ordinaire que si les Juifs n'avaient entendu parler de lui qu'après l'avoir vu, ils se seraient moqués du témoignage de Jésus. D'ailleurs, ils n'ont pas compris en disant mais comment c'est cet homme peut-il prêcher ainsi pendant que notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il n'a pas fait d'études, qu'il n'a pas allé dans les écoles. Vous voyez? Et ça a aidé beaucoup de Juifs à se convertir en reconnaissant, mais c'est pas possible d'expliquer ça par des choses naturelles. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, comme enfant, à 12 ans, qui reste au temple de Jérusalem pour enseigner les docteurs de la loi. Donc il est la vie, il est la lumière, il est la vérité. Rappelez-vous la phrase: je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la vie, il est la lumière, la vérité, qui ne garde pas en lui-même les richesses de sa bonté, mais les diffuse à tous. Cependant, ces richesses demeurent dans leur intégralité après avoir été diffusées. Il ne peut y avoir une diminution en lui de ce qu'il procure aux autres, car il leur donne ses richesses de manière encore plus abondante tout en gardant en lui la même perfection. Notre Seigneur Jésus-Christ est inaltérable. Et même s'il donne des grâces partout, il ne se diminue pas. Sa gloire substantielle ne peut pas augmenter parce qu'elle est déjà infinie. La seule gloire qui peut augmenter notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas donc sa gloire substantielle, mais sa gloire accidentelle. À chaque fois qu'on fait un acte de charité, à chaque fois qu'on assiste à la Sainte Messe, à chaque fois que le prêtre renouvelle les paroles de la consécration, il augmente indirectement, il va augmenter la gloire accidentelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas sa gloire substantielle. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, elle ne peut pas perdre sa divinité. Il peut perdre même une parcelle de sa divinité, parce qu'il est Dieu, il reste Dieu pour toute l'éternité. Donc il ne peut y avoir une diminution en lui de ce qu'il procure aux autres, car il leur donne ses richesses de manière encore plus abondante, tout en gardant en lui la même perfection. Donc, nous, on se vide de nous-mêmes, donc c'est bien pour ça qu'il faut, avant de se donner aux autres, il faut être rempli par la grâce du bon Dieu, il faut être réservoir avant d'être un canal, disait Saint Bernard. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Il peut être canal tout le temps pour donner aux autres, parce que le réservoir est toujours plein en lui. Il n'y a pas besoin de remplir son réservoir. Pourtant, on voit notre Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois se réfugier au désert pour y prier seul avec les anges. Vous voyez? Alors, parce qu'il est en même temps homme. Donc, en tant qu'homme, il était parfaitement homme, même si cet homme était Dieu, eh bien, il avait besoin de ce temps de prière pour être encore plus parfaitement disposé à la volonté, à suivre la volonté divine, la volonté du bon Dieu, son Dieu, son Père. Donc, il donne ses richesses de façon extraordinaire à tous les hommes, mais tout en gardant en lui la même perfection. Dieu ne se vide pas pour se donner. Nous, c'est différent, on ne peut pas faire ça. Quand on donne, on se vide, toujours en partie. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention en tant que catholique à ne pas tomber dans l'activisme. À chaque fois qu'on se lance en action, on se vide un peu. Et donc il faut toujours prendre grand soin de remplir notre réservoir pour pouvoir donner. Malheur à celui qui donne en tant qu'homme et qui oublie de remplir son réservoir par la méditation. Pourquoi Mgr Lefebvre demandait avec raison que chacun de ses prêtres ait une heure de méditation par jour? On en a besoin, sinon on se vide. Moi je me rends très bien compte quand je ne peux pas faire des... J'essaie de garder mon heure de méditation tous les jours, bien sûr, mais quand je prêche des retraites, par exemple, j'arrive pas forcément à faire ma méditation devant le Saint-Sacrement, parce que je suis trop occupé avec les retraites, je les prêche tout seul, mais je garde la méditation tous les jours. Mais souvent, par exemple, quand j'ai des longues distances à faire aussi, je suis obligé de faire une partie de ma méditation au volant. Bon, c'est pas l'idéal, et j'en souffre. Je me rends très bien compte que ces méditations n'ont pas la profondeur que je peux avoir dans ma méditation avec la grâce du bon Dieu quand je fais ma méditation devant le Saint-Sacrement. Mais il faut, je peux pas dire, moi, je roule beaucoup, donc eh bien, ce jour-là, je dis pas mon bréviaire, ce jour-là, je ne fais pas ma méditation. Non, il faut garder le bréviaire, il faut garder la méditation, il faut garder sa vie spirituelle, même si on fait 2000 km dans la journée. Pourquoi? Parce que sinon, on va tomber dans l'action et on va oublier que nous avons besoin de remplir notre réservoir. On va devenir un canal, on va donner. Un jour, on sera complètement vide, on n'aura plus rien à donner. On va mourir d'inanition nous-mêmes parce qu'on n'aura plus rien à donner. Donc, se remplir avant de transmettre aux autres. Donc, malheur aux parents aussi qui cherchent à transmettre à leurs enfants, qu'ils ne se remplissent pas eux-mêmes. Il faut se remplir soi-même du bon Dieu, de la grâce du bon Dieu, pour pouvoir remplir son devoir de magistère, son devoir de ministère et de gouvernement à l'égard de ses enfants. Donc par le Christ, nous avons reçu, toujours en page 12, en haut de la page, par le Christ, nous avons reçu sa grâce qui nous élève, nous fait appartenir à l'ordre divin des choses comme enfants de Dieu, participant à sa nature divine. Les apôtres devinrent en quelque sorte des compagnons et les amis du Christ, car ils les appellent ses frères. De même, le pape appelle les cardinaux frères, les personnes au même niveau que lui. Attention, il faut bien comprendre cette phrase, les phrases des pères. C'est-à-dire qu'ils ont le même niveau que lui, en tant qu'ils ont tous le même sacerdoce. Mais le pape a une autorité en tant qu'il est chef de l'Église. Donc, en tant que chef d'Église, il n'est pas au même niveau que lui. Si on comprend cette phrase de travers, on pourrait tomber dans les erreurs de Vatican II et de croire que le pape ne peut avoir autorité qu'avec les évêques qui sont unis à lui. Donc, loin de nous les idées de collégialité. Que les croyants, surtout les prêtres et les religieux, disent les pères, réfléchissent en eux-mêmes sur leurs obligations de vivre comme le Christ une vie toute céleste, afin que quiconque les voit ou les entend puisse dire qu'il a vu ou entendu le Christ en sa vivante image. Donc, et c'est ça qui est beau, même dans le monde moderne complètement pourri, il y a encore des gens qui derrière la soutane du prêtre voient le bon Dieu, vous voyez. C'était hier, je vais aller prendre de l'essence et je suis en train de remplir de carburant le réservoir de ma voiture. Et à côté, à la pompe, il y a une dame qui était en train de faire la même chose. Et elle m'a vu en soutane, elle est venue me parler pour me remercier tout simplement d'être en soutane. Vous voyez, ça m'a fait plaisir. Donc je lui ai donné elle voulait parler, mais elle n'avait pas le temps. Je lui ai dit, bon, écoutez, je vous donne mon numéro de téléphone, appelez-moi si vous voulez. On a communiqué depuis pour faire un peu de cours de catéchisme. Je l'ai beaucoup poussé à aller écouter les cours de catéchisme qui sont sur le site internet dont je m'occupe. Rappelez-vous cette belle phrase de ce protestant qui est allé voir le Saint-Curé d'Ars. On lui a demandé, alors qu'est-ce que tu as vu, une fois qu'il était revenu chez lui en Angleterre. Et il a répondu, je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu derrière cet homme. Ce qui est extraordinaire avec le Christ, c'est qu'on voit Dieu derrière l'humanité du Christ. Ça se voit très, très, très ouvertement quand il fait ses miracles, évidemment. Mais il faut voir cette humanité, même quand il souffre sur la croix. Hein, parce que cette divinité, même quand il souffre sur la croix. Mais c'est la même chose pour nous. Il faut que le prêtre, la soutane aide beaucoup pour ça, il faut que les gens voient le prêtre, et derrière le prêtre voient le bon Dieu. Et c'est pareil pour les catholiques. Il faut que vos enfants, pour les parents qui m'écoutent, qui ont des enfants, il faut que les enfants puissent voir Dieu derrière l'autorité de leur parents, derrière la façon d'agir des parents. Il faut qu'ils voient le bon Dieu derrière. Vous rappellerez toujours cette réflexion d'un petit gamin qui m'avait dit une fois, comment voulez-vous que je voie l'autorité de Dieu sur... qui s'exerce sur moi par mes parents, quand mes parents se disputent entre eux. Ben, évidemment, il avait raison, petit gamin. Les parents se disputent, eh bien, comment voulez-vous que le bon Dieu puisse voir, que l'enfant puisse, de 5-6 ans, puisse voir Dieu qui lui parle à travers ses parents, quand il voit ses parents qui se disputent. J'explique toujours aux enfants, attention, à chaque fois que vous désobéissez au bon Dieu, eh bien, par un péché, eh bien, vous désobéissez à vos parents, vous désobéissez au bon Dieu, c'est la même chose. Parce que les parents représentent l'autorité de Dieu. Donc, on va essayer de terminer cette page 12, que j'ai encore quelques minutes. Voyons les versets 16 et 17 de Saint Jean au chapitre 1er. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que veut dire cette expression grâce pour grâce? C'est-à-dire que nous avons reçu de sa plénitude, disent les pères, je ne sais quoi d'ineffable et ensuite grâce pour grâce. Quelle est la première grâce que nous avons reçue? La foi, qui est appelée grâce parce qu'elle est donnée gratuitement. La grâce est un don gratuit de Dieu. Donc Dieu donne d'abord la première grâce, qu'on appelle la première grâce, l'arrivée de la grâce sanctifiante dans une âme, et ensuite il donne aussi des grâces secondes, c'est-à-dire une augmentation de la grâce sanctifiante qui est déjà dans notre âme. Donc, lorsque je me confesse, par exemple, si je suis déjà en état de grâce avant de me confesser, c'est le cas si je n'ai sur ma conscience que des péchés véniels, j'ai déjà la grâce première en moi, je reçois, par la confession, par l'absolution sacerdotale, je reçois une augmentation de la grâce déjà existante en moi. Par contre, si je suis en état de péché mortel, j'ai perdu la grâce première. Et donc, je peux même pas recevoir une grâce seconde, parce que j'ai même plus la grâce première, comme sous-basse, qui va servir de sous-bassement à la grâce seconde. Donc, si je suis en état de péché mortel, par l'absolution sacerdotale, je reçois non pas une grâce seconde, c'est-à-dire une augmentation de la grâce qui déjà existe dans mon âme, puisque cette grâce, en fait, n'existe plus à cause de mon péché, je vais recevoir, par l'absolution sacerdotale, la grâce première. Donc, le pécheur a donc reçu cette première grâce qui a été pour lui le principe de la rémission de ses péchés. C'est ce qui se passe pour chaque pécheur qui a un péché mortel qui se confesse avec les bonnes dispositions. Il a de nouveau reçu grâce pour grâce, c'est-à-dire que pour cette grâce qui nous fait vivre de la foi, nous en recevrons une autre, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, la grâce amène à la gloire. La vie éternelle, c'est la gloire. Car la vie éternelle est comme la récompense de la foi, et comme la foi est une grâce, la vie éternelle est aussi une grâce donnée. Pas pour une autre grâce. Donc, la grâce première va permettre la persévérance, et la persévérance va donner, pousser jusqu'au bout de la vie, va aboutir à la grâce de la bonne mort, la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir, certainement la grâce de la bonne mort, c'est-à-dire mourir en état de grâce, et celui qui meurt en état de grâce avec cette grâce de la bonne mort peut, à ce moment-là, jouir de la vie éternelle pour toute l'éternité. Donc la grâce, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et donc, malheureusement, on peut perdre cette habitation par le péché, mais une fois qu'on sera au ciel, cette grâce, la présence de Dieu en notre âme sera inaltérable parce qu'on ne pourra plus la perdre pour le péché. Continuons. La loi contient un triple commandement, la loi morale ou décalogue, la loi judiciaire et la loi cérémoniale. Bon, deux premiers. Donc la loi morale et la loi judiciaire, l'évangéliste oppose la grâce sans laquelle ces commandements ne pourraient être observés. Donc il faut comprendre l'esprit qui est derrière la lettre. Si j'observe la lettre de la loi mais que j'en ai pas l'esprit, je perds mon temps. Donc si je suis la lettre de la loi mais que je n'ai pas l'esprit de charité en moi, ben, je perds mon temps parce qu'il manque l'essentiel. Un croyant qui, avec l'aide de la grâce, remplit la loi par amour de Dieu, mérite donc la vie éternelle, parce qu'il a en lui la vertu de charité. Mais à la loi cérémonielle, donc aux deux premières lois, la loi morale, décalogue, ou la loi judiciaire, l'évangéliste oppose la grâce. À la loi cérémoniale, il oppose la vérité. Car cette cérémonie était les types et ombres du Christ et de ses sacrements, ombres que le Christ va réaliser par la vérité. Donc tous les purifications dans l'Ancien Testament avaient pour but de préparer les âmes des Juifs à un jour recevoir une purification bien plus grande. Donc les purifications par le sang de l'agneau qui avait été immolé par le grand prêtre, et ensuite l'aspersion par le sang de l'agneau avec une branche d'hysope de tous les fidèles qui étaient devant le temple, représente évidemment le Saint-Sacrifice de la Messe, et qui est une purification infiniment plus grande. Parce que le sang de l'agneau, c'était l'agneau qui était immolé par le prêtre de l'Ancien Testament, était une image de la réalité qui allait venir avec notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Messe. Donc la Sainte Messe n'est plus une image, c'est la réalité. C'est une action, c'est pas simplement un mystère, quelque chose de mystique, c'est une action réelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, réellement, substantiellement, descend sur l'autel. Donc Saint Augustin, par le mot grâce, comprend le Verbe lui-même, incarné dans le temps. Par le mot vérité, la vision éternelle de Dieu. Donc la grâce se réfère au temps, et la vérité se réfère à l'éternité au ciel. Donc par le mot vérité, la vision éternelle de Dieu, à laquelle il nous conduit. Dans les choses qui ont de leur origine dans le temps, la plus haute grâce pour l'homme consiste à être uni à Dieu par unité de personne. Mais dans les choses éternelles, la vérité la plus élevée est avec raison attribuée au Verbe de Dieu. Donc, au ciel, si vous voulez, on verra la divinité que l'on ne voit pas ici-bas. Ici, on voit une hostie pendant cette messe. Il faut faire un acte de foi, mais je crois que cette hostie est en fait substantiellement votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Au ciel, on n'aurait même plus besoin de faire un acte de foi parce qu'on verra Dieu. C'est pour ça qu'au ciel, il y aura la charité, bien sûr, qui va demeurer éternellement. La charité demeure éternellement, mais pas la foi ni l'espérance. La foi et l'espérance disparaissent au ciel parce qu'elles ne sont plus nécessaires, puisqu'on verra Dieu. La foi nous fait croire quelque chose qu'on ne croit pas. L'espérance se fait espérer en quelque chose qu'on ne possède pas encore. Mais une fois qu'on est au ciel, on aura la foi, on verra Dieu, on aura la vision divine, on aura donc plus besoin de la foi. Et on possédera Dieu, donc on n'aura plus besoin d'espérance. Comme le Christ est dans le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, on devrait, dans les choses qui sont faites pour nous dans le temps, pouvoir constamment le contempler dans les choses éternelles. Donc il faut justement arriver à dépasser les choses d'ici-bas pour déjà garder notre esprit au ciel avec les anges. Voilà, donc je vais arrêter là. Ça fait déjà une heure que je vous parle. Nous allons terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.